Donc il y a un mouvement circulaire avec la convection, qui est un mouvement radial, ce qui est induit par le transport de l'énergie du centre vers la surface du Soleil. Ces grands mouvements internes du Soleil sont des générateurs de champs magnétiques extrêmement intenses, qui sont amplifiés pendant des années et qui, à certains moments, alors, des fragments émergent à la surface. Et on voit apparaître un dipôle magnétique dont les points de percée en surface sont marqués par les taches solaires, zones plus froides. Plus froides pourquoi? Souvent, ça paraît paradoxal, on se dit ça devrait être plus chaud vu qu'il y a de l'activité. Ben, il se fait que juste sous la surface, l'effet est en fait contraire, c'est-à-dire que la présence des champs magnétiques contrôle le mouvement du plasma, donc c'est un gaz électrisé à l'intérieur du Soleil, et en fait, aux endroits où il y a ce champ magnétique, la convection est inhibée, et donc comme c'est ce qui transporte la chaleur interne vers la surface, ben la surface refroidit, et un plasma plus froid émet moins intensément, et donc le centre d'une tâche, c'est 10% à peu près de la luminosité du disque solaire moyen, et donc c'est par contraste qu'on les voit comme sombres.
Alors il y a des périodes calmes, on va dire, et des périodes de grande activité avec des centaines de tâches, ceci selon un cycle de 11 ans, le cycle solaire, avec les pics qui correspondent à des vagues magnétiques qui partent des pôles vers l'équateur du Soleil et puis qui disparaissent. Le cycle solaire, lui, donc, dont on parlait, cycle de 11 ans, il est connu depuis à peu près un siècle et demi, mais c'est quand même ces dernières années qu'on a beaucoup avancé dans la modélisation physique du cycle solaire. Ça permet d'observer que le Soleil recycle en réalité ses champs magnétiques pour reproduire tous les 11 ans avec les résidus finalement de la nouvelle activité. Donc c'est étonnant ce recyclage, non?
C'est en fait presque la première caractéristique qui a été connue du Soleil. Et ce n'est que depuis 10-15 ans qu'on commence à détenir la clé de l'explication, parce que pourquoi l'activité ne serait pas simplement uniforme au fil du temps? Ce qui apparaît, c'est que justement, le champ magnétique qui émerge lors d'un cycle ne s'évapore pas, ne disparaît pas simplement. Une partie effectivement dégagée par le Soleil lors des éruptions, etc., mais une autre partie, en fait, se disperse simplement à la surface du Soleil, et ces mouvements ramènent, en fait, le champ magnétique au pôle solaire, qui le rend redisponible pour être réamplifié. Et, en fait, étant donné les mouvements de dérive en latitude, hein, les tâches dérivent vers l'équateur progressivement, donc ça induit une échelle de temps. Et pour qu'une boucle soit bouclée, eh bien, on trouve que effectivement la base de temps est aux environs de 11 ans. Et là, on touche, et seulement maintenant, après plus de 150 ans, à la réponse pour expliquer presque le premier fait connu du Soleil. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions scientifiques qui ont résisté comme ça aussi longtemps. Mais il y a encore du progrès à faire, parce que si on peut reproduire par des modèles physiques le comportement général des cycles, y compris son instabilité, c'est pas une horloge, la période est fluctuante entre 9 et 14 ans, et l'amplitude peut même, un cycle peut s'arrêter. Pour le moment, on n'est pas encore à même, par exemple, partant de la situation présente, de prédire exactement comment se comportera le cycle suivant. Ça, peut-être dans 10 ans, quelque chose comme ça, mais c'est une des grandes quêtes de la physique solaire actuelle.
Oui, car on comprend des choses essentielles sur le moteur interne de l'activité solaire, mais il reste quand même quelques grands mystères. Pourquoi les champs magnétiques de la surface sont réingurgités, si je puis dire, à l'intérieur du Soleil? On n'a pas encore totalement percé ce mystère-là.
C'est l'un des aspects, c'est qu'effectivement le champ magnétique est dégagé à la surface, monte vers la surface. C'est presque intuitif, hein, la chaleur aussi prend ce chemin-là du centre vers la surface. Mais comment le Soleil peut ravaler son propre champ magnétique? Et là, bon, ça a fait appel à des modèles hydrodynamiques, magnéto-hydrodynamique très complexe, et où il faut en fait souvent aller chercher à des échelles spatiales très petites par rapport au volume total du Soleil. ce qui est un défi, bon, ça, il faut des supercalculateurs, etc., et qui permettront de comprendre comment le champ magnétique de surface peut être réentraîné. Ça se passe au pôle, et donc comment il peut être réentraîné vers les profondeurs.
Et pourquoi les tâches ou les groupes de tâches apparaissent à un endroit ou pas à un autre? Ça aussi, c'est plus ou moins une question en suspens.
Ce qui est compris maintenant, c'est pourquoi elles apparaissent dans des bandes de latitude limitées et qui dérivent du pôle vers l'équateur entre le début et la fin du cycle. Mais par exemple, la raison pour laquelle elles vont apparaître à certaines longitudes du Soleil plutôt qu'à d'autres, surtout qu'on a constaté qu'à certains moments du cycle, pendant un ou deux ans parfois maximum, il y a des longitudes qui sont, disons, muettes, c'est-à-dire que quasi aucune tâche n'apparaît dans ces longitudes-là, alors que des régions actives successives apparaissent et toujours dans les mêmes secteurs de longitude aussi. Donc ça, c'est encore un des éléments qui n'est pas encore entièrement compris.
Les réponses pourraient se trouver au niveau des pôles. Les Solar Orbiters que vous avez cité tout à l'heure, une des missions de l'ESA, travaille sur ce sujet-là. Hein.
Pour avancer, il faut effectivement combiner les modèles, comme j'ai évoqué. Là, bon, il faut faire appel à des supercalculateurs, etc., parce que ça ne s'explique que par des modèles tridimensionnels et qui, de préférence, devraient s'étendre à l'ensemble du volume du Soleil, ce qui est un véritable défi. Un autre aspect, c'est que les zones polaires du Soleil sont peu visibles de la Terre, qui gravitent dans un plan proche de l'équateur solaire. Et donc, pour tous les instruments, à la fois sur Terre, mais aussi les sondes qui jusqu'ici ont été lancées, bon, ben, le point de vue est équatorial. Et donc, c'est une sorte de terra incognita, ou deux pôles du Soleil. Et là, c'est une des avancées qui va être apportée par Solar Orbiter. C'est que dans les années qui viennent, l'inclinaison de l'orbite va monter vers 30 degrés de latitude. Et c'est pour la première fois une sonde qui sera équipée d'imageurs, d'instruments qui peuvent mesurer les flux ultraviolets, les champs magnétiques, etc. Et donc vont pouvoir cartographier les zones polaires. Là, ce sera vraiment la découverte d'un terrain inconnu.
Tout à l'heure, vous avez parlé des éruptions solaires. Ce sont les phénomènes physiques les plus extrêmes, directement observables depuis la Terre ?
Rien de plus puissant ne se produit, bon, à proximité de la Terre, heureusement à 150 millions de kilomètres.
Voilà.
Mais bon, il faut savoir qu'une éruption moyenne, je ne vais pas citer le chiffre, enfin c'est 10 exposant 22 joules pour une éruption moyenne, mais c'est l'équivalent de 10 000 ans de consommation mondiale d'énergie. Et il faut savoir qu'une éruption ne dure que quelques minutes. Donc la puissance émise pendant ces quelques minutes est simplement inimaginable. Donc là, on est content quand même d'avoir un petit peu de recul au niveau de la Terre, donc pour ne pas en subir trop directement les conséquences. Mais ça veut dire quand même 150 millions de kilomètres, l'influence de ces phénomènes est encore perceptible ici au niveau de la Terre.
Et des éruptions solaires moyennes, il y en a à peu près 5 à 10 par jour, à peu près ?
En phase de maximum d'activité solaire, c'est de cet ordre-là, oui.
Mais donc, vous le dites, elles sont moyennes, mais elles agissent comme de gigantesques accélérateurs de particules, avec comme effet un échauffement quand même de millions de degrés et même des réactions nucléaires. C'est ça le principe de ces éruptions.
Oui, oui. Ce sont principalement les électrons et les protons qui sont accélérés. Et bon, ben, ils vont percuter les noyaux des atomes formant l'atmosphère solaire. Et donc, ça induit même des réactions nucléaires en surface, exposées directement à notre vue. Mais bon, bien sûr, ça mène à bien d'autres retombées, notamment au niveau de véritables flashs en rayon X et même rayon gamma. Donc, des sursauts où là, c'est pas quelques pourcents. À ces longueurs d'onde-là, tout à coup, le Soleil devient 10, 100, 1000 fois plus lumineux pendant l'espace de quelques minutes.
Mm-hmm. Alors, ces éruptions moyennes se produisent à une distance, vous l'avez dit, suffisante pour ne pas en affecter la Terre. Maintenant, si on évoque une super éruption, c'est un phénomène rare, mais qui se produit quand même tous les quelques siècles. La dernière en date, elle a été observée en 1859, je pense, avec des perturbations sur le réseau télégraphique. Donc, on peut imaginer les effets, étant donné notre hyper-dépendance actuelle aux technologies et à l'électricité. Donc là, il faut quand même réfléchir.
Effectivement, on n'a jamais connu l'incidence d'un tel phénomène dans un contexte où on a notre société technologique hautement dépendante à l'électricité, etc. Mais même avant de parler d'un événement extrême, il faut savoir que déjà des éruptions fortes et qui se produisent là à l'échelle des mois peuvent provoquer déjà des problèmes majeurs. Il y a eu là dans les années 80 la grosse coupure d'électricité au Québec, donc où là sur une région aussi vaste qu'un pays entier, des gens se sont retrouvés pendant des heures sans électricité parce que le réseau haute tension était victime de ce qu'on appelle la tempête géomagnétique. Donc il y a des retombées à tous les niveaux aussi, dans nos technologies, interruption de service ou perte de précision dans les télécommunications, dans les systèmes GPS qui utilisent les télécommunications pour donner la position d'objets. Et là où c'était uniquement utilisé pour certaines applications militaires il y a 20 ou 30 ans, maintenant, bon, là sur son smartphone, dans sa voiture, c'est utilisé en navigation aérienne civile, etc. Donc on a multiplié des systèmes qui sont sensibles à l'influence solaire, là où jadis, bon, le téléphone par exemple, c'était le fil qui allait dans le mur, et donc qui était essentiellement insensible, maintenant c'est par onde radio. Et donc on a généralisé des systèmes qui sont sensibles et qui peuvent être perturbés ou même interrompus par l'activité solaire, sans même parler des événements les plus extrêmes. Et là, bon, il y a une prise de conscience, ce qui a mené au développement de ce domaine en physique solaire qu'on appelle la météorologie spatiale, par analogie à la météorologie terrestre, parce que ça y a cet aspect opérationnel de suivi, de prévision court terme et d'avertissement quand un événement est en route.
Donc de surveillance continue.
Surveillance continue. Et comme le soleil ne s'arrête jamais, que ce soit la nuit en Europe, bon, ben, ça continue. Et donc, il faut que des collègues au Japon, en Australie, aux États-Unis prennent le relais. Et donc, c'est un effort mondial coordonné qui forme cette veille continue du soleil, de manière à ce que des utilisateurs dans tous les domaines, télécommunications, transport, etc., soit au courant des perturbations qu'ils peuvent subir, soit dans certains cas quand on est devant le fait accompli, mais au moins savoir que la cause de la perturbation est solaire et combien de temps ça va durer. Mais il y a une capacité pour certains types de perturbations, notamment les tempêtes géomagnétiques. Là, on a la capacité de prévoir l'arrivée de ces perturbations de 1 à 3 jours avant l'arrivée de la perturbation solaire au niveau de la Terre. Ce qui permet alors à des opérateurs de satellites, par exemple, de mettre les satellites en safe mode, etc., de manière à ce qu'ils puissent passer à travers la bourrasque et donc éviter des pertes, parce qu'il y a eu des pertes de satellites. Il ne faut pas chercher il y a très longtemps, c'était au mois de mars, il y a eu un lancé par SpaceX d'une grappe de satellites, et la plupart ont été perdus suite au déclenchement d'une éruption solaire, juste au moment où les satellites étaient libérés sur leur orbite.
Mais Frédéric Lett, par rapport à cela, et d'une façon assez, assez générale, oui, une surveillance continue avec toutes les conséquences que donc vous expliquez, car il y a des signes précurseurs qui pourraient laisser le temps de prendre des mesures de protection. Mais ce que vous dites aussi dans votre livre, et c'est la réflexion qui en ressort, c'est qu'il faut repenser notre organisation de vie globale, finalement.
C'est une des leçons, effectivement, surtout là, si on pense aux phénomènes extrêmes, que je compare un peu à une éruption volcanique où des habitants vivent sur les pentes d'un volcan, c'est très fertile, etc. Et le volcan ne s'est plus allumé depuis des milliers d'années, on oublie le risque, mais quand ça se produit, c'est très grave. Et donc, au niveau du Soleil, dans ces événements rares, mais extrêmes, qui n'ont pas eu de précédent avec notre société technologique, là, on pense très clairement que les risques sont globaux à l'échelle mondiale, avec un véritable effondrement simultané des télécommunications et de l'électricité, qui est devenue incontournable pour des tas de systèmes, rien que l'argent, par exemple, c'est devenu des électrons. Mm-hmm. Face à ça, il faut prendre conscience que vis-à-vis du Soleil, et finalement, si on y pense, c'est beaucoup plus large, au cours des 100-150 dernières années, on s'est affranchi un peu de la nature, avec les combustibles fossiles, on éclaire la nuit, donc on s'est affranchi du cycle jour-nuit, qui pourtant était si important quand on lit les livres anciens qui parlent de l'importance de la lumière le jour, on ne peut rien faire la nuit, etc. Et on a effacé la nature. Mais la nature, le soleil, lui, il est toujours là, il fait ses éruptions toujours comme avant, mm-hmm. Et sur les dernières décennies, beaucoup de technologies et de systèmes qu'on a généralisés l'ont été sans prendre en compte ce paramètre solaire, le fait que le soleil, lui, peut mettre des grains de sable dans l'engrenage très très sérieusement. Et donc et l'idée, d'être averti de la tempête, non. Mais avant qu'elle arrive, organiser les choses de manière à ce que les systèmes ne puissent pas être détruits, soit résilient en fait vis-à-vis de ces sautes d'humeur du soleil. Et donc plutôt que de se développer en dépit de ou contre ce fonctionnement de la nature qui est là, mm-hmm. Et qui reste, c'est plutôt de se mettre en phase. Et étant donné la complexité en fait de la nature, le soleil lui-même est un système extrêmement complexe, pas entièrement compris. C'est en fait un défi pour l'avenir, parce que se mettre en phase avec notre étoile implique réellement développer des nouvelles connaissances, améliorer les techniques qui seront développées dans l'avenir pour vraiment surfer, on pourrait dire en mm-hmm. quelque sorte, sur ce que le soleil nous apporte.
Voilà, et c'est ce qu'on disait en commençant, c'est une façon de boucler évidemment la boucle, c'est que le soleil, il ne change pas, mais nous devons nous adapter à lui, car c'est lui qui est là, qui règne d'une certaine façon, on doit s'adapter à son fonctionnement. On a dit d'ailleurs, Frédéric Leyde, et ce sera un peu le mot de la fin, que le soleil pouvait encore briller et être actif pendant des millénaires, mais un jour, d'ici 5 milliards d'années environ, l'étoile va mourir, parce que les réserves d'hydrogène de son cœur seront épuisés. Qu'est-ce qui se passera pour le soleil quand il va mourir ?
Il va arriver à court de son carburant qui lui a permis de briller pendant 10 milliards d'années, donc l'hydrogène. Mais pendant toute cette phase, la fusion de l'hydrogène produit de l'hélium. Et à ce moment-là, en fait, l'hélium, à son tour, va pouvoir servir de combustible. Le problème, c'est que cette fusion de l'hélium est beaucoup moins efficace. Il faut beaucoup plus de masse par unité d'énergie à fournir. Ce qui veut dire que cette phase sera nettement plus courte. Et elle nécessite aussi une température plus élevée. Et donc le cœur du Soleil va monter en température bien au-delà de 15 millions de degrés. Et on le sait, un gaz chauffé se dilate. Et donc, le fait que le cœur du Soleil va devenir extrêmement chaud va faire que tout le volume du Soleil va se dilater et le diamètre du Soleil va augmenter d'un facteur 100 à peu près. Et donc, il va engloutir les planètes intérieures, peut-être pas la Terre, mais néanmoins, la Terre sera alors très près de la surface du Soleil. Et donc, ne sera plus qu'un rocher calciné. Ça va durer quelques centaines de millions d'années par rapport aux milliards d'années de la phase de séquence principale, comme on l'appelle. Et à ce moment-là, Il n'y a pas d'autres carburants. Bon, le Soleil n'est pas une étoile parmi les plus massives qui terminent leur vie par un grand feu d'artifice, ce qu'on appelle les supernovae. Ce sera nettement plus modeste. Il va simplement se refroidir. Et en fait, se refroidissant, son diamètre va par contre diminuer et il va finir comme une naine blanche dont le diamètre sera à peine plus grand que celui de la Terre, mais avec une densité énorme, vu qu'il y aura encore toute la masse du Soleil dans ce petit volume, comme une cendre, une braise qui s'éteint quand, après que le feu se soit éteint.
Cela dit, la Terre sera devenue inhabitable bien longtemps avant que le Soleil ne s'éteigne, mais elle pourrait très bien revoir apparaître des formes de vie, comme ça a été le cas lors du dernier millénaire.
La luminosité du Soleil, effectivement, augmente très légèrement à mesure que son réservoir d'hydrogène s'épuise. Donc c'est une montée de luminosité très lente, mais qui fait qu'on estime dans à peu près 1 milliard d'années, ce surplus de luminosité et donc de chaleur va amener à l'évaporation des océans, et donc la Terre va devenir une Terre désertique. Mais que savons-nous dans 1 milliard d'années, quand on pense qu'il y a 1 milliard d'années, on en était, pour ainsi dire, qu'aux formes de vie les plus primitives, même pas les vertébrés, les unicellulaires, etc. Donc ce ne sera même pas nous, les hommes, qui aurons à régler le problème, ce seront des descendants, peut-être d'autres branches de l'évolution, d'animaux marins, que sais-je, autres que les hommes, qui devront trouver une solution, espérons-le, à ce moment-là, avec peut-être le fait que, comme la chaleur solaire aura augmenté, la planète Mars, qui est hélas plus petite que la Terre, sera peut-être, elle, à son tour, rentrée dans la zone d'habitabilité et pourrait être transformée en une chaloupe de sauvetage, en quelque sorte.
Une arche.
Une arche de sauvetage temporaire.
Voilà. Alors Frédéric Led, parmi les sujets que vous développez dans le livre et qui concernent donc la structure du Soleil, du cœur à la surface, l'origine de l'étoile, son fonctionnement, les phénomènes qui se produisent, la façon dont le Soleil aussi, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, a été vu, compris, perçu par les anciens, sa place dans les philosophies, les croyances, il y a aussi les courts récits de votre expérience et de vos observations, donc il y a tout ça dans le livre, donc 1000 sujets qu'on aurait déjà pu, dont on aurait pu parler. Si je vous demande vraiment le mot de la fin,